Bonjour! Bonjour! Comment ça va, monsieur l'âme? Bien le bonjour! Ah, il y a la FAQ qui est sortie hier, très bien. Ça, c'est bon, la FAQ, elle est sur la chaîne YouTube, le TikTok, il est TikToké, l'influence est influencée, les influençables sont influencés, tout va bien! Bonjour. Comment ça va? Hop, lui il faut que je lui envoie un mail. Lui il faut que je l'appelle. Ouais, ça va, s'il y a du boulot. Très drôle la dernière vidéo, super montage. Alors je sais pas si c'est l'humour, la première des qualités de la vidéo FAQ, c'est plutôt les best-of qui sont rigolos. Mais les montages sont toujours exceptionnels, ça c'est vrai, ça c'est vérifié, ça c'est certifié, ça on le sait. Le présent stream n'a pas été tweeté. Ah! Ouais, mais je mets quoi comme titre de stream? Attends, il est où le truc? Il est où le truc? Non. Ah! Nikoumouk. Hop, live. Viens, on parle politique. Voilà. Boum. Y a quelque chose de prévu ou c'est juste un live tranquille? C'est plutôt un live tranquille. Sous forme de on discute d'actu, slash FAQ si vous avez des questions, slash on lit des articles si vous voulez qu'on lise des articles. C'est plutôt peinard aujourd'hui. J'utilise le 49.3 afin de faire passer un bonjour chaleureux. Bonjour. J'ai 42 fièvres. Oh! Courage, 42 fièvres, ça pique ça. En général, les streamers y mettent un titre en rapport avec le sujet du stream. Ah. Ça va, c'est en rapport. J'ai 49,3 de fièvre. La blague est validée. J'ai lu ce matin que Katniss avait été exclue du parti de gauche. Je ne savais pas qu'il existait encore. Je croyais que le LFI lui avait succédé. Moi aussi, je le croyais. Voilà. Non, mais j'en sais rien. Je te dis, oui, visiblement, le parti de gauche existe toujours. Katniss a été exclue du parti de gauche. La France Insoumise, c'est pas un parti, c'est un mouvement. Ça y ressemble quand même vachement. Voilà. Donc voilà. C'est quoi le scandale sur la corruption en Ukraine? Bah, l'Ukraine est un pays qui est rongé par la corruption, et ça, on le sait depuis longtemps. L'Ukraine est un pays dans lequel il y a beaucoup de corruption, on le sait. Zelensky a été élu président en Ukraine sur un programme anticorruption. Voilà, Zelensky, c'était le candidat anticorruption, etc. Donc il y a des problèmes de corruption en Ukraine depuis très longtemps. Et il y a des enjeux autour de la corruption dans un contexte de guerre et hors contexte de guerre. Mais dans un contexte de guerre, c'est particulièrement difficile. Et il se trouve que selon les mêmes... Moi, j'ai les mêmes informations que vous, hein, j'en ai pas plus. Un certain nombre de responsables politiques... Ukrainiens ont démissionné ces derniers jours sur fond de révélations de détournement d'argent qui avait été envoyé pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Voilà. Ça fait partie des problèmes de corruption qu'on peut avoir dans des pays où des dignitaires touchent du pognon de manière indue sur des aides qui viennent de l'étranger. Voilà. Je connais aucun pays sans corruption. Alors, il y a différents niveaux de corruption. Il y a différents niveaux de corruption, il y a différents pays qui ont des rapports à la corruption différents. L'absence totale de corruption, effectivement, c'est probablement même un vœu pieux, mais il y a des pays plus ou moins touchés par les problèmes de corruption. Donc voilà. Je voudrais contacter Jean pour un projet associatif. T'as mon mail dans ma bio Twitter. On parle pas de député LFI pourtant. Pour Adrien Quatennens, si, mais c'est parce que le parti de gauche n'est pas un groupe à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle la différence entre un groupe et un parti. Un parti politique, c'est ouvert à tous les citoyens qui peuvent y adhérer. Un groupe parlementaire, c'est réservé aux parlementaires qui organisent leur travail entre eux. Et il se trouve qu'il y a un groupe qui s'appelle La France Insoumise, qui réunit tous les députés qui ont été investis par La France Insoumise, qui ont été élus avec l'étiquette La France Insoumise et qui se raccrochent à La France Insoumise. Quel que soit leur parti politique, on s'en fout, voilà. Et le parti de gauche, le PG, c'est le parti qui a été créé par Jean-Luc Mélenchon en 2008, lorsqu'il a quitté le Parti Socialiste. Il a créé le PG, mais très rapidement, il a fait alliance avec le Parti Communiste pour créer ce qu'il appelait le Front de Gauche en 2012 pour sa campagne présidentielle. Voilà. Et ensuite, ça a changé de nom, il y a eu plusieurs noms, etc. Machin. D'ailleurs, un intergroupe, est-ce que c'est prévu par le règlement de l'Assemblée nationale? Non. Un intergroupe, ça n'existe pas dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est un fonctionnement politique qui est décidé. Si plusieurs groupes parlementaires veulent créer entre eux un truc de communication, de discussion, ils peuvent le créer, ils sont libres, ils peuvent créer des intergroupes. Vous savez, les députés sont libres, hein, ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Un groupe, ça, c'est légalement, ça permet de s'organiser, etc. Mais ensuite, alors les députés, ils peuvent inventer, s'ils veulent, des intergroupes, des contre-groupes, des surgroupes, des groupes de travail, etc. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils aiment bien se réunir, ils se réunissent. Pourquoi les députés non inscrits ne mettent pas dans un même groupe? Alors, il y en a qui l'ont fait, qui ont créé un groupe qui s'appelle Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, LIOT, qui est un groupe un peu fourre-tout, même si c'est méchant de ma part de dire ça, c'est un groupe auquel vont se raccrocher des gens issus d'un peu partout qui souhaitent bénéficier des avantages d'avoir un groupe. Donc avoir du temps de parole, avoir des possibilités de facilité de réunion, pouvoir embaucher des collaborateurs de groupe, etc. Et le groupe LIOT, c'est un groupe qui réunit des députés. Il y en a certains qui viennent de l'UDI, il y en a certains qui viennent, qui sont des autonomistes, des régionalistes. Il y a des députés corses. Il y a des députés d'outre-mer, il y a des députés un peu du centre, un peu de gauche, il y a des députés dissidents, etc. Donc ça, c'est un groupe typiquement qui a été créé par des indépendants qui se sont dit, bah, on est autant se mettre ensemble, même si du coup, c'est pas vraiment un groupe politique qui a une doctrine politique claire. Mais c'est pas grave, ils s'en foutent, ils disent, non, non, mais on n'est pas là pour avoir des disciplines de vote, chacun fait ce qu'il veut, mais on a au moins un groupe, et chacun fait ce qu'il veut, voilà. C'est quoi la motion référendaire proposée par le PCF? Une motion référendaire, en fait, c'est une demande de référendum. C'est à peu près aussi simple que ça. Une motion référendaire, c'est une demande de référendum qui n'a quasiment aucune chance d'être adoptée parce qu'il faudrait qu'il y ait une majorité de députés qui la votent, ensuite il faudrait qu'il y ait une majorité de sénateurs qui la votent, et ensuite il faudrait que le président de la République soit d'accord. Ça n'arrivera pas, mais peu importe, c'est quand même intéressant de la déposer pour les groupes d'opposition, pour forcer le débat sur le référendum. Comment expliquer que les députés français au Parlement européen ne déclarent pas leurs revenus? C'est-à-dire, ils déclarent leurs revenus, hein, les députés, ils payent des impôts, etc. La question, c'est où est-ce qu'ils le déclarent? Ça, je ne sais pas dans quel pays ils vivent. Penses-tu qu'une dissolution de l'Assemblée nationale est possible cette année? Vous savez, en politique fiction, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est probable? À ce stade, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, le débat à l'Assemblée nationale de la réforme des retraites commence à peine en commission. On n'est pas encore à l'étape du Sénat, etc. Il faut voir. Si la réforme n'est pas adoptée, il est possible qu'Emmanuel Macron décide de dissoudre. Mais bon. Combien de temps ça peut prendre cette histoire de retraite à l'Assemblée? Pas plus de 50 jours de débat. Enfin, à l'Assemblée, 20 jours. Et au total, pas plus de 50 jours. Donc, on sera fixé fin mi-mars. Macron peut-il faire marche arrière sur la retraite? Ah oui, il peut faire ce qu'il veut, oui. Oui, il peut. Est-ce que ce serait pas à son avantage de dissoudre maintenant? Non. Non, non, Emmanuel Macron n'a pas intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale maintenant. Il y a très peu de chances que les Français votent pour des députés de La République En Marche si jamais il y avait des élections qui étaient organisées dans un mois. Est-ce que c'est court 50 jours? Est-ce que c'est court 50 jours pour débattre d'une loi? Ça dépend de la taille de la loi. Là, comment il s'appelle le ministre du Travail, Olivier Dussopt a dit que la réforme des retraites ne faisait que 14 articles. Que 14 articles. 14 articles. En 50 jours, ça peut être faisable. Après, c'est toujours ce que je vous dis. Attention, il y a article de loi et article de loi. Il y a un article de loi, ça peut faire 40 lignes, ça peut en faire une, ça peut être extrêmement important, ça peut être révolutionnaire, comme ça peut être ultra technique. Il n'y a pas le même temps de débat sur tous les articles de loi. Ça dépend ce que les députés décident. Après, je vous rappelle que la durée du débat dépend aussi de combien d'amendements les députés déposent, et ça dépend de combien d'amendements sont effectivement débattus dans l'hémicycle, et ça dépend de si les députés prennent du temps à débattre leurs amendements, etc. Est-ce que tu y crois à son retrait? Au retrait de la réforme des retraites? Non, j'y crois pas. À son atténuation par le travail parlementaire, c'est possible, on verra. Est-ce que tu penses qu'il pourrait déclencher l'article 47.1? L'article 47-1 de la Constitution n'est pas un article qui se déclenche. C'est un article qui s'applique tout le temps. À la différence du 49.3, qui est un article qui peut être utilisé ou pas. Le 47.1, c'est juste un article qui prévoit les conditions d'examen des lois de budget de financement de la sécurité sociale. En fait, c'est même l'inverse. Pour être plus clair, le gouvernement ne peut pas ne pas appliquer l'article 47.1, c'est interdit. L'article 47.1 prévoit la méthode d'examen de ce type de loi. Dès lors que c'est ce type de loi qui est déposé, alors la Constitution précise que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc on ne peut pas ne pas appliquer l'article 47.1. Quid de la constitutionnalité du 47.1? Alors, je ne suis pas juge constitutionnel. Il y a peut-être une question, il y a deux questions qui vont probablement être posées au Conseil constitutionnel sur cette réforme des retraites. La première, c'est l'article 47.1 peut-il s'appliquer sur les budgets rectificatifs de financement de la sécurité sociale, ce qui n'est pas sûr. La question 2, c'est est-ce que les mesures complémentaires à la réforme des retraites prévues dans le projet de loi relèvent du caractère budgétaire de la loi ou est-ce qu'il faut passer par une deuxième loi? Donc ces deux questions-là vont probablement être posées. Est-ce que ton live fait des réacts sur l'audit de l'Assemblée nationale? C'est quoi l'audit? Qui a fait un audit? Il y a un cabinet d'audit qui a audité? Est-ce qu'il est possible que si au bout des 50 jours le gouvernement n'a pas convaincu, ils peuvent mettre en œuvre les ordonnances? Ah bah c'est même ce qui est prévu, oui. Oui, c'est même ce qui est prévu. Si au bout de 50 jours il n'y a pas de vote au Parlement, le gouvernement met en place sa réforme par ordonnance. Mais je vous rappelle qu'une ordonnance doit être votée à la fin. Hein. Donc il y aura bien un vote à la fin. Mais après l'entrée en vigueur. Il se passe quoi si le gouvernement joue le jeu de l'obstruction parlementaire des oppositions? Prennent le temps d'étudier tous les amendements déposés et qu'ils arrivent au bout. Ah bah il se passe rien, ça prend du temps, c'est tout. C'est quoi une ordonnance? Une ordonnance, c'est une loi qui est décidée par le gouvernement, mais qui doit être ratifiée à la fin par l'Assemblée nationale. C'est une manière très vulgaire de dire ce que c'est qu'une ordonnance. En gros, pour gagner du temps, au lieu que le Parlement passe une plombe à discuter d'une loi, le Parlement donne l'autorisation au gouvernement de faire une loi, de la mettre en œuvre. Et il lui dit, vous m'envoyez votre copie après, et une fois que c'est rentré en vigueur, on verra et on signera. Ou pas, on en débattra. Mais on peut modifier aussi, hein. Merci pour ton taf avec ton équipe, tu m'as redonné goût à la politique et je suis beaucoup plus curieux qu'avant. Merci à toi, ça fait plaisir. C'est à mon tour de vous remercier, notamment pour vos dons à Baxit. Merci à vous. Est-ce que tu y crois à une mini-fronde qui enlèverait le nombre de députés nécessaires au vote de la loi? Je réfléchis. Non, j'y crois pas. En fait, je ne crois pas à la possibilité que des députés En Marche votent contre la réforme des retraites. Je crois à la possibilité que quelques députés En Marche, enfin Renaissance, s'abstiennent de voter. Et quand je dis quelques, s'il y en a 5 à 10, c'est le bout du monde. Comment interprètes-tu l'obstination du président de la République à effectuer cette réforme qui semble être très impopulaire? Je l'explique par le fait que gouverner, ce n'est pas toujours chercher la popularité. Il peut arriver, pour tout président de la République, quel qu'il soit, que des décisions ne soient pas populaires, mais aillent dans ce qu'il estime être l'intérêt général. C'est le job de la politique, c'est même l'honneur de la politique parfois, que d'aller contre la popularité en prenant des décisions difficiles. Qui relève de l'intérêt général. Tout l'art de la politique en démocratie, c'est de débattre, de savoir quel est l'intérêt général. Et donc je ne suis pas en train de vous dire que la réforme des retraites va dans l'intérêt général. Je dis qu'Emmanuel Macron estime que c'est le cas. Comment est-ce que je l'interprète? Je l'interprète assez simplement. Il suffit d'écouter Emmanuel Macron lui-même. Emmanuel Macron souhaite faire les réformes qu'il estime nécessaires pour remettre la France dans la course à la croissance économique, le plein emploi, voilà. Donc il veut que la France rattrape ses voisins sur l'âge légal de départ à la retraite, que la France retrouve un niveau de compétitivité similaire, que la France progresse et rejoigne l'Allemagne dans une économie florissante. Emmanuel Macron veut quitter le pouvoir en 2027 en disant: je rends les clés, j'ai remis la France au travail, j'ai fait baisser le chômage, j'ai relevé l'âge légal de départ à la retraite, j'ai assaini les comptes de la sécurité sociale, etc. Vous pouvez penser ce que vous voulez de mes deux quinquennats, mais au moins j'ai fait ça. Et ça, vous ne me l'en retirez pas. C'est ça, sa volonté politique. Est-ce que Macron t'a invité à un repas pour t'expliquer sa vision? Non, il m'a pas invité à bouffer. Mais de toute façon, comme il regarde mes streams régulièrement, il a dû considérer que je comprenais assez bien où est-ce qu'il voulait aller. Donc il n'a pas estimé nécessaire de me faire déplacer pour me redire ce que je savais déjà. Et de ce point de vue-là, il a pas eu trop tort. Il a pas eu tort, hein. Après, j'aime bien bouffer, donc moi je veux bien bouffer, mais. Est-ce qu'une réforme très impopulaire est démocratique? C'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question. Je nous invite collectivement à réfléchir à la question de la popularité en politique. Dès lors qu'une personne est élue, peut-elle prendre toutes les décisions, même les plus impopulaires? Est-ce que la popularité doit guider l'action publique? Est-ce que l'inverse n'est pas dangereux? De dire que si c'est les sondages qui guident l'action du gouvernement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que. C'est la rue qui gouverne, c'est ça? voilà. Est-ce que toutes les idées politiques que vous avez sont populaires? Est-ce que vous en êtes sûr de ça? Ah, mes souhaits, merci. Le gouvernement est au service du peuple, pas d'une idéologie. Oui, mais le peuple sait-il lui-même quel est son intérêt? Je vous laisse y réfléchir, je vais fermer la porte, il y a un courant d'air. Le peuple, qu'est-ce qu'il veut? Le peuple, il veut plus de frites à la cantine. Mais le peuple, il veut aussi être en bonne santé. Or, les frites à la cantine, ça fait augmenter le taux de diabète. Du coup, il faut faire un arbitrage entre les deux. Est-ce que le peuple est en mesure d'entendre que des frites tous les jours, c'est pas une très bonne idée pour sa santé? Est-ce que des frites un jour sur deux, c'est populaire? Peut-être pas. Mais est-ce que la bonne santé, c'est populaire? Bah oui. Du coup. Voilà. Pardon, hein, pour le côté très caricatural de ce que je suis en train de dire, mais on n'est pas loin de ça en politique. On veut tous des services publics qui fonctionnent bien et un niveau d'imposition qui n'est pas déconnant non plus. Ou alors un impôt plus juste. On veut tous de la sécurité routière. Mais on n'aime pas les radars automatiques et les amendes. Compliqué. Un peu cliché. Carrément cliché. Ah oui, non, 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 là c'est même honteux les analogies que je prends. Mais c'est pour vous faire comprendre ce sujet de la popularité qui est un sujet intéressant, qu'il faut pas négliger. C'est ce qu'on appelle, moi j'ai bossé en mairie par le passé, ce qu'on appelle le paradoxe du maire. Les gens dans une mairie, ils veulent un espace public propre et bien aménagé. Et ils détestent les travaux. On déteste tous les travaux. Hein. Le marteau piqueur sur les trottoirs, le truc qui est fermé, la rue qui est fermée, le bordel, les engins de chantier, la poussière et tout. Tout le monde déteste les travaux. Donc quand un maire va voir des électeurs, il leur dit vous voulez quoi? Leurs électeurs leur disent on veut que vous refassiez le centre-ville parce que là c'est n'importe quoi, c'est crade et machin. Du coup le maire il est élu, il met en place les travaux durent 5 ans. À la fin des 5 ans il va voir ses électeurs, leur dit alors ça vous a plu? Et les électeurs disent bah non, on a eu des travaux pendant 5 ans, vous êtes un très mauvais maire. Paradoxe du maire. Ça marche bien pour les lignes de tram. Ah oui, non, mais c'est le meilleur exemple, hein. Mais ça, alors ça, c'est pour ça que je vous invite toujours. Si un jour dans votre vie vous avez l'occasion de faire de la politique au niveau local, faites-le. C'est une leçon passionnante de démocratie, de gestion, de direction, d'intérêt général, de conflit, d'intérêt, etc. C'est extrêmement intéressant. On a tous besoin de déchetterie, mais personne ne veut une déchetterie dans son jardin. Du coup, la question, c'est on la construit où la déchetterie? Vous voyez tous les débats qu'on a sur Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de Bure, enfin pas l'aéroport, pardon, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, le site de Bure pour enfouir les déchets nucléaires et tout. C'est un sujet que tous les élus locaux connaissent, avec les déchetteries, avec les prisons. Où est-ce qu'on construit les prisons? Personne ne veut de prison à côté de chez soi. Ce sera toujours impopulaire la construction d'une nouvelle prison pour les gens qui habitent à côté. Et, les éoliennes, bah les éoliennes, meilleur exemple, les éoliennes. Excellent exemple. Donc voilà, Vous comprenez l'idée? Pourquoi est-ce qu'on parlait de ça? Je sais plus, on avait commencé sur quoi? Comme disait Hugo, si on ouvre une école, on ferme une prison. C'est un chouïa plus compliqué que ça, mais dans l'idée, ouais. Pareil, hein, les écoles, construire une école, croyez pas que c'est facile, hein. Moi, j'ai connu les courriers de riverains qui se plaignent du bruit de la cour de récré. Ça existe. Il y a des gens qui trouvent que les enfants, ils font trop de bruit pendant les récréations. Bon, de toute façon, les courriers de riverains, j'ai envie de vous dire, sont jamais contents. Il n'y a rien qui va. Je te demandais comment t'interprétais l'obstination. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Et après, on discutait de la question difficile de l'intérêt général et tout. Pour avoir vécu à côté d'une école maternelle, je confirme que c'est le truc le plus bruyant au quotidien que j'ai entendu de ma vie. Ah oui, ah oui, une école maternelle, ça tabasse, hein. Une école primaire aussi, ça fait beaucoup de bruit. Ouais, ça fait beaucoup de bruit. Sauf que la réforme des retraites, c'est pas la question de sa popularité, mais de la nécessité et de sa justesse, étant donné l'actuelle répartition de la valeur et des richesses. Oui, absolument. Non, mais c'est parce que la popularité d'une réforme, se jauge au regard de différents critères. Et tu t'en as cité deux qui sont très intéressants, la nécessité et la justice. Et c'est vrai. Je pense qu'il faudrait priver de démocratie les gens qui se rendent compte qu'ils seront pour se rendre compte de ce que c'est. Je préférais qu'on n'ait pas à le faire. Je suis voilà. Merci Sims Clan Live, merci. Je préférais qu'on n'ait pas à se priver de démocratie pour se rendre compte que c'est précieux. Voilà, si on peut éviter de faire la guerre pour se rendre compte que la paix c'est mieux, c'est mieux. Salut Flonflon. On va mourir pour voir que la vie c'est mieux. Oui, on s'en doute que la vie c'est mieux. C'est pour ça qu'on reste en vie en général. Perso, j'ai testé la pauvreté pour vous, je recommande pas, pas la peine de tester. Que pensez-vous des assemblées citoyennes pour leur ville qui se font et se refont en ce moment? Moi, j'ai toujours été pour la démocratie, enfin les éléments de démocratie participative. Y a des collectivités locales qui mettent en œuvre des expériences de démocratie participative et c'est très bien. Les assemblées citoyennes, les assemblées tirées au sort, les consultations locales, les concertations, etc. Moi, j'ai toujours été très très pour. Hein. Voilà. C'est hyper intéressant, c'est des expériences à balles réelles de démocratie, c'est souvent imparfait, ça nécessite d'avoir de l'expérience. Voilà, ça prend du temps, ça demande de l'exercice. Merci Goethe pour ton abonnement. Merci Alchimia pour ton resub, merci. L'avantage d'un système démocratique, c'est qu'on peut s'en plaindre. Oui, la démocratie est le seul système politique qui intègre sa propre critique. C'est fou, hein. En dictature, personne ne se plaint de la dictature. C'est pas une bonne nouvelle. En enseignant la politique à l'école, produit des générations plus stables en termes d'avis politique. C'est-à-dire stable. C'est quoi la stabilité? En dictature, tu te plains, mais une seule fois. Ouais, puis tu reviens sur tes paroles sous la torture. Qui a eu l'idée du 49-3 quand ils ont imaginé la constitution de la 5e? Bah, c'est Debré, c'est Debré et De Gaulle. Enfin, c'est les gaullistes des années 50 quand ils ont écrit la 5e République. Ils ont rationalisé le parlementarisme en rajoutant des articles pour passer outre les blocages. Je fais partie d'une assemblée fraîchement créée. Une assemblée citoyenne locale? Bah, très bien. Félicitations. Il pensait pas faire ça en mode mal, je pense. Ah bah au contraire même, au contraire, l'obsession de De Gaulle et de Debré dans la création de la cinquième, c'était de donner au gouvernement les moyens de gouverner. Voilà. Et bah, le 49-3 fait partie des éléments qui effectivement donnent au gouvernement les moyens de passer outre une assemblée rétive. Avec les limites que ça a, mais ouais. Pourquoi les motions de censure passent jamais? Pour une raison assez simple et finalement très démocratique, c'est ce qu'on appelle le fait majoritaire. Pour être Premier ministre en France, il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Autant que possible, une majorité absolue. En fait, je vais mettre une petite astérisque. Pour être Premier ministre en France, sous la Ve République, virgule, il faut soit avoir une majorité de députés qui te soutient, soit ne pas avoir de majorité qui te défie. On va dire ça. Une motion de censure, c'est quoi? C'est un texte qui propose de virer le gouvernement. Dans une assemblée dans laquelle il y a une majorité de députés qui soutient le gouvernement, c'est normal qu'une motion de censure passe pas, ou rarement. Puisque par définition, le gouvernement est là parce qu'il y a une majorité de députés qui le soutient. Ou, à défaut, pas de majorité qui le défie. Après, on a les politiques qu'on mérite quand on voit les Balkany réélus à chaque fois. Ouais, mais en fait, le problème des Balkany, c'est un peu ça qui me gonfle, c'est que... Les Balkany, ça fait partie de cette minorité de politiques qui font n'importe quoi et qui emportent avec eux l'image de l'ensemble de la scène politique. Et c'est injuste. C'est injuste. Patrick Balkany était maire d'une ville qui s'appelle Levallois. Il y a 36 000 communes en France et ça m'emmerde qu'on mette dans un grand sac appelé Balkany tous les maires de toutes les villes de France sous prétexte que lui, il est médiatique parce qu'il fait n'importe quoi. Un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que toute la forêt qui pousse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pareil pour les Cahuzac, c'est pareil pour machin. À chaque fois que vous voyez un scandale politico-financier ou politique, c'est normal et naturel qu'on ait l'impression que oh là là, ils sont tous comme ça. Bah non, c'est juste qu'un élu qui a pas de casserole, vous en entendrez jamais parler puisque vous entendez parler des casseroles. Société un peu, ouais, c'est un peu ça. Hashtag saucisse. Paradoxe du survivant, ouais. Est-ce que tu as étudié le droit ou une démocratie d'un autre pays pour comparer à la France? Oui, moi je suis juriste comparatiste. Je suis maître en droit comparé, puisque j'ai une maîtrise. Mais en fait, il faut bien que vous compreniez que là aussi, il n'existe pas de critère absolu de qualité d'une démocratie. C'est comme les régimes politiques ou les systèmes politiques. On ne peut pas copier-coller un système politique dans une culture qui n'est pas la sienne en se disant si ça marche dans un pays, ça va marcher pour l'autre. Non, on ne peut pas. Je vous garantis que les systèmes d'Europe du Nord, on les copie-colle, on les met en France, ça ne marchera pas. Voilà. C'est des questions de culture politique et de contexte politique. Un exemple à ça que je trouve assez intéressant, c'était le constitutionnaliste Rousseau, Dominique Rousseau, qui nous expliquait, quand j'étais étudiant, il nous expliquait qu'au moment des printemps arabes, au début des années 2010, il avait été invité en Tunisie, à l'invitation des constituants tunisiens, donc qui avaient dégagé le pouvoir de Ben Ali et qui étaient en train d'écrire une nouvelle constitution. Et donc ils avaient consulté des constitutionnalistes du monde entier, notamment les Français qui sont très réputés. Et Dominique Rousseau était allé les rencontrer. Il avait échangé avec eux. Et Dominique Rousseau, donc il discutait de la nouvelle constitution tunisienne, l'organisation du système politique tunisien, etc., etc. Et Dominique Rousseau, en bon français, les avait mis en garde contre le risque de l'éparpillement des partis politiques à l'Assemblée, en leur donnant le témoignage de ce que les Français ont connu sous la Quatrième République, le régime des partis, et son blocage des institutions par l'émiettement du fait qu'il y avait 1 milliard de petits partis qui passaient leur temps à négocier entre eux, qui se tiraient dans les pattes tout le temps, etc., et qui fait qu'au final, le pays était mal gouverné, mal gouvernable. C'est un point de vue qui est celui des gaullistes, mais qui est bon. Donc Dominique Rousseau arrive en Tunisie avec ce discours-là, en disant il est important, lorsqu'on écrit une constitution, de penser à l'effectivité, à l'efficience et à la capacité du gouvernement à prendre des décisions. Et l'émiettement des partis empêche ça. Et les révolutionnaires tunisiens lui avaient répondu, vous savez, professeur, c'est intéressant ce que vous dites, vous nous mettez en garde contre la diversité des partis politiques et l'émiettement politique, sauf que nous, on a eu 40 ans de parti unique dans ce pays. Donc, l'émiettement des partis, la diversité des partis, c'est quelque chose qu'on veut. Paradoxalement, c'est un truc dont on a envie en ce moment. Si on a fait une révolution, si on a dégagé Ben Ali, c'est qu'en fait, on cherche un paysage politique pluriel, beaucoup plus pluriel que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, et Dominique Rousseau était revenu en France et il nous témoignait de ça en disant, voilà, il a pris une leçon ce jour-là en disant, il faut faire très attention à ne pas chercher à faire des copier-coller dans des contextes politiques qui ne sont pas les mêmes. Des gens qui sortent d'un parti unique, c'est normal qu'ils aient envie d'avoir un émiettement politique. C'est normal. C'est naturel. On peut pas enlever ça aux gens. Ils ont envie qu'il y ait plein de partis différents, qu'il y ait des options. Ils ont envie d'avoir plein de choix. Bon, bah, c'est normal. Charge à eux de trouver la bonne méthode, la bonne manière, le juste équilibre. Et puis, s'ils mettent le curseur un peu trop loin dans la diversité politique, ils risquent d'en revenir dans quelques années. Donc voilà. Vous voyez? Selon toi, est-ce que tous les Français sont légitimes de pouvoir voter? C'est une question de point de vue. En démocratie, une personne égale une voix. À titre personnel, comme je suis démocrate, je refuse que l'on mette des conditions supplémentaires à la légitimité à voter. Je n'ai rien, je ne suis personne pour retirer son droit de vote à qui que ce soit. De fait, il y a des conditions supplémentaires, les mineurs peuvent pas voter. Oui, alors oui, évidemment, il y a les conditions d'âge et les conditions de tutelle, curatelle, etc., et de déchéance des droits civiques, mais au demeurant, moi je suis un ancien militant des droits de l'enfant, enfin j'ai toujours été engagé pour les droits de l'enfant, je fais partie de ceux qui estiment que c'est pas parce que les enfants peuvent pas voter qu'il faut pas écouter leur avis. Donc je suis un grand partisan de la mise en place de procédures de concertation avec les publics concernés, notamment sur les politiques qui touchent les enfants. C'est mon point de vue. Le modèle politique suisse est intéressant. Non, mais tous les modèles politiques sont intéressants. C'est pas le sujet. c'est que c'est pas parce qu'il, enfin, il existe des expériences à l'étranger qui peuvent être intéressantes à expérimenter, à tester, à tenter, mais le copier-coller n'a pas de sens. Faut faire attention. Le modèle nord-coréen est aussi intéressant. En tout cas, personne ne s'en plaint. Que penses-tu du vote de préférence multiple? Suis toujours gêné par les questions qui commencent par que penses-tu? Parce que qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Moi, je trouve ça intéressant, c'est à tester, probablement à utiliser davantage, à expérimenter déjà. Moi, il y a un truc qui me gonfle en France, c'est que je trouve qu'on n'expérimente pas. On n'a pas de culture de l'expérimentation. On essaye toujours de faire la réforme parfaite, du premier coup et on se donne pas la possibilité de tenter des trucs. J'aimerais bien qu'on file de la souplesse un peu dans notre système et qu'on rende possible l'expérimentation démocratique dans les territoires, dans les collectivités locales. Que si on veut faire des consultations citoyennes plus souvent dans les mairies, bah écoutez, j'ai pas envie d'empêcher un conseil municipal de le faire. Mais on est tellement borné en France, c'est vraiment notre côté jacobin. Bam, bam, c'est comme ça, pas autrement. Je sais pas, on pourrait peut-être essayer, tu vois. Par exemple, vous voyez, on a un débat en permanence sur faut-il abaisser le droit de vote à 16 ans? Bon, c'est un débat intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, dire que le droit de vote c'est à 18 ans, mais qu'à partir de 16 ans, ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire sur les listes électorales et voter? Voilà. On commence par ça, tu vois, en disant, bon, bah, un gamin de 17 ans qui a envie d'aller voter, bon, bah, on va pas l'empêcher d'aller voter. Enfin, voilà, inscris-toi, voilà, bah, t'es libre d'aller t'inscrire. Si t'es suffisamment adulte pour faire le trajet jusqu'à ta mairie pour t'inscrire sur les listes électorales, bah vote. C'est pas la peine d'abaisser l'âge. On peut sortir aussi de ces carcans à chaque fois. Bah non. Mettons un peu de souplesse, laissons les choses se faire, un peu tranquille. Et puis je sais pas, on pourrait commencer par abaisser le droit de vote à 16 ans aux élections locales, par exemple. Et puis on pourrait laisser les mairies qui veulent le mettre en place. Voilà. Ça, les gens qui sont radicalement opposés au droit de vote à 16 ans, et ben, le mettez pas en place dans votre ville alors. Voilà, c'est pas grave. Et puis la ville d'à côté, s'ils veulent le mettre en place, vous n'allez pas les empêcher de le faire. C'est pas grave. Tranquille. On se détend. Et comment les mairies décident? Eh ben, ils font un vote en conseil municipal. Tranquille. Pas besoin de s'énerver. Enfin bref, voilà, vous voyez, moi j'ai toujours, toujours plaidé pour qu'on laisse les gens expérimenter des trucs. Est-ce que c'est pas un suicide politique de dire on va tenter un truc? Bah non, ça devrait pas l'être. On peut essayer on peut expérimenter des trucs, hein, on peut tenter. Alors ça existe hein, quand même, des expérimentations. Mais ça prend du temps. Les expérimentations de territoires zéro chômeur, par exemple, qui ont été mis en place à partir de 2013, c'était une expérimentation, c'était nouveau, une autre manière de faire. Bon, bah voilà, il y a des territoires qui l'ont expérimenté, qui en tirent des conclusions. C'est bien, c'est pas bien, on teste, on voit. Et puis si c'est pas bien au bout de 10 ans, on arrête, hein, c'est pas grave. On change de braquet. Laisser les gens expérimenter supposerait de faire confiance aux gens. Est-ce que c'est vraiment la culture française? Ça, j'en sais rien. C'est un hashtag saucisse. Mais non, non, oui, je trouve qu'on fait pas assez confiance aux gens. On fait pas assez confiance aux jeunes. Notamment aux jeunes. Ça me saoule. Il y a une défiance envers la jeunesse. On ne pouvait pas les laisser faire, les jeunes, là, de temps en temps. Les laisser créer leurs assos, les laisser expérimenter leurs trucs. Toujours que les vieux se ramènent en disant les jeunes sont tous des cons, ils comprennent rien. Moi, je sais, bah, je sais pas, laisse-les faire. Puis si c'est une grosse connerie, bah c'est une grosse connerie, ils vont faire leur grosse connerie, puis ils vont apprendre. Oh là là. Pas de droit à l'erreur et pas de co-construction. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est. Enfin, bref, on est souvent dans ce défaut de. On est tellement persuadé d'avoir raison sur les autres et. Qu'on se laisse pas la possibilité de. De changer. Quand tu vois tous les réacs dans la télé se foutre de la gueule des jeunes à la manif de samedi pour rattraper et surtout sauver la Terre. Classique. Mais ça, c'est pareil, c'est qu'à un moment, faut aussi pas se focaliser sur. Enfin. Il y aura toujours des vieux cons qui pensent que la société part en couille et que les jeunes de nos jours, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas grave. Genre, il y a un moment aussi, il va falloir qu'on accepte de dire on s'en branle, c'est pas important. Et l'avis de Jean-Michel Cinquantenaire sur le plateau de BFM TV n'est pas important. On s'en fout, c'est pas grave. Ça peut pas plaire à tout le monde, ça lui plaira jamais, c'est pas grave, on va faire sans. C'est exactement comme le débat est-ce que l'e-sport c'est du sport? On s'en branle? Qu'est-ce que ça change? Que ça le soit, que ça le soit pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Le rock c'était mieux avant. Et alors? D'accord. Ouais. Voilà. Laissez les gens kiffer. Un peu comme les gens qui donnent leur avis sur Twitter. Oui, mais enfin bon, Twitter, ça existe depuis plus de 15 ans maintenant. J'espère que les gens ont compris que leur opinion n'avait pas beaucoup d'importance. Et que c'est à eux seuls qu'ils font plaisir en la partageant leur opinion. J'espère qu'ils l'ont compris, ça. Donc voilà. Donc voilà. Non, non, mais ça c'est un truc, ça, d'une manière générale, hein. Apprendre à accepter le fait que il y aura toujours des gens pas d'accord. Et jauger à quel point c'est important. Et si on juge que c'est pas très important et qu'on s'en fout, bah c'est pas grave. C'est bon, on fait sans. Est-ce que tu as un avis plutôt objectif à formuler sur la réforme des retraites? Il n'y a pas d'avis objectif, c'est une antithèse. C'est pas possible d'avoir un avis objectif. Si c'est considéré comme un sport, peut-être que ça pourrait être mis au JO. Ou pas? Et c'est pas grave, enfin encore une fois, si c'est mis au JO, si c'est mis au JO, qu'est-ce que ça enlève aux autres? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est. Enfin voilà. Est-ce que les amateurs d'athlétisme. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit l'athlétisme, le fait qu'il y ait des JO, qu'il y ait de l'e-sport au JO? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit l'e-sport, que ça soit au JO, que ça ne le soit pas? Est-ce qu'il y a un besoin de l'e-sport d'être au JO? Je crois pas. Est-ce que ça peut être utile? Peut-être. Auquel cas, why not? Plus de pognon, même pas sûr. Hein. Est-ce que la filière e-sport a besoin d'être présente aux JO pour être davantage financée? Est-ce que les JO sont le maître étalon de l'organisation sportive et e-sportive? Bon. Est-ce que l'e-sport a eu besoin d'être JO jusque-là pour exister, organiser des compétitions, des ligues et tout? Non. Bon. C'est même pas un gros plus. En quoi? Les JO, c'est un peu la ref. En sport, ouais. Mais en e-sport. Il y a des tournois, hein, il y a des ligues. En termes de législation, est-ce que les organisateurs ont d'autres contraintes si l'e-sport est considéré comme un sport? Alors, en l'occurrence, la législation sur l'e-sport a déjà évolué par le passé, sans qu'on ait besoin de régler la question de savoir si c'est du sport ou pas. En fait, peu importe. Peu importe. Les organisateurs de tournois e-sport avaient des problèmes légaux en France parce qu'il y avait un flou juridique. Ces problèmes ont été réglés en partie par la loi République numérique et les sujets qui se portent. Voilà. Donc oui, il y a un cadre aujourd'hui légal d'organisation de compétitions e-sport. Il y a un cadre légal qui existe pour les e-sportifs, qui se rapproche en partie des sportifs, etc. Bon, voilà. Donc il n'y a pas besoin de répondre à la question sport ou e-sport pour améliorer le cadre légal et législatif d'organisation de compétitions sportives. Là, il y a eu des informations la semaine dernière sur les visas pour les joueurs e-sport pour qu'ils puissent voyager et faire des compétitions. Vous savez qu'il y a des visas pour les sportifs quand ils vont faire des compétitions à l'étranger. Il se trouve que pour les joueurs de jeux vidéo, c'était plus compliqué. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'il allait faciliter l'obtention de visas pour les joueurs de compétitions sportives, de e-sportifs, pardon. Très bien. Super. Bonne nouvelle. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu un exemple, le débat sport e-sport, parce que en fait, que la réponse soit oui ou non, ne change en fait pas grand-chose à la vie des sportifs et des e-sportifs. Enfin, l'e-sport, ça existe. Le sport, ça existe. Est-ce que les e-sportifs ressentent le besoin d'être reconnus comme un sport? Non. Est-ce que les sportifs ressentent le besoin de reconnaître les e-sportifs comme un sport? Non. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans l'un comme dans l'autre? Oui. Est-ce qu'il y a besoin pour ça de confondre les deux? Non. Bon, bah du coup, on avance, hein, c'est pas grave. Après, le problème, c'est de pouvoir organiser des compétitions reste compliqué, que ce n'est pas encore considéré comme un sport par l'État en tant que tel. Ça voudrait dire quoi? Ok, on va retourner à la question. Ça voudrait dire quoi, concrètement, être reconnu comme un sport par l'État en tant que tel? Ça impliquerait quoi? Pas de subvention, ça c'est faux, il y a des subventions pour des compétitions e-sportives. On veut être reconnu en tant que tel. Une fédération, mais il y en a déjà. Les filières e-sportives s'organisent déjà. Être sous la tutelle du ministère des Sports, ça changerait quoi? Plus de subventions, ça changerait rien. Hein. Être reconnu comme un sport. Vous savez, il y a plein de sports qui n'ont pas assez de subventions. Hein. Faut pas croire que être reconnu par l'État, ça apporte de l'argent. Hein. Allez demander à la fédération de handball s'ils sont contents de leur subvention. Ah non, 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 non. M'appelant Guillaume, j'aimerais être reconnu en tant que tel. Elle est validée. Il y en a qui galèrent à exister, le fait d'être connu permet d'avoir un interlocuteur. Il y a déjà des interlocuteurs pour la filière e-sport. Hein. Je vous rassure, il y a déjà des interlocuteurs à Bercy, à la DGE, au ministère du numérique, au ministère des Sports, au ministère de l'Intérieur, dès qu'il y a besoin d'organiser. Du coup, est-ce que c'est juste une histoire d'ego? Non, non, mais en fait, il n'y a pas d'ego mal placé, je vous rassure. Les interlocuteurs que je connais dans le monde de l'e-sport ne demandent pas à être reconnus comme un sport. Ils vont très bien, ils vivent leur vie, ils organisent leur compétition. Ils ont des enjeux, hein, ils ont des problèmes. Il n'y a pas assez d'argent, il y a besoin de facilité, etc. Ils ont le même problème qu'à peu près n'importe quelle organisation sportive, mais ce n'est pas une demande du monde de l'e-sport que d'être reconnu en tant que sport. Ils vont très bien, les e-sportifs. Ils vivent leur vie, ils organisent leur filière, leur fédération, leur structuration d'équipe, de fédération, d'organisation, de tournois. Ça avance. On est même plusieurs à s'en battre les steaks. Voilà, il y a TKL dans le chat qui connaît très bien l'e-sport. Ça va, hein. Je veux dire, ça roule, hein. Ça avance. Il se passe des trucs. D'ailleurs, il y a encore eu un rapport du Parlement européen ce mois-ci sur le jeu vidéo et l'e-sport. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, le Parlement européen, ils ont rendu un truc. Et alors, du coup, ils proposent quoi? T'es biaisé, tu connais le monde de l'e-sport qui marche actuellement, ça laisse personne de côté. C'est-à-dire, c'est quoi le monde de l'e-sport qui marche pas? S'il n'y a pas assez de public, c'est pas l'État qui va changer quoi que ce soit. Hein. Je suis désolé pour la ligue. Je sais pas, il y a quoi comme jeu qui marche pas en e-sport. Des mineurs, Overwatch. Ouais, Overwatch. Écoutez, la ligue Overwatch. Enfin, les gens de l'e-sport Overwatch, leur problème, c'est pas la non-reconnaissance par l'État. Hein. C'est qu'il n'y a pas assez de joueurs, il n'y a pas assez de jeux vendus, il n'y a pas assez de spectateurs, du coup, il n'y a pas assez de sponsors. Mais ça, les reconnaissances par l'État ou pas, désolé, copain, mais. Touchez pas à mon Overwatch, ça marche très bien, surtout en France, la plus grosse commu. Ah! Avec les brocasters. Évidemment, on fait des bisous à Lutti. C'est de la non-reconnaissance par Blizzard. Ah, bah alors, ça, les copains, je suis désolé, c'est pas du côté du gouvernement qu'il faut aller frapper, hein. Ça, alors, ça, s'il y a des problèmes avec les éditeurs. Et il y a des problèmes avec les éditeurs. Salut Blizzard, ça va? Quand tu veux, hein. Voilà. S'il y a des problèmes avec les éditeurs, faut pas aller frapper à la porte du gouvernement. Hein. Ça, Désolé. Quid d'une structuration de l'e-sport au sein d'une fédération globale permettant d'unifier les statuts et de garantir l'équité, mais aussi de booster la compétitivité. Je sais, je suis pas sûr que ce soit réclamé par les acteurs de l'e-sport, hein, ni par les clubs, ni par les éditeurs, ni par les organisateurs de compétition. Vu que l'e-sport n'est pas une discipline, mais qu'il y a plusieurs disciplines au sein du monde de l'e-sport, je suis pas sûr que les équipes, les joueurs et les éditeurs de jeux de stratégie ressentent le besoin ou l'envie de se structurer avec leurs collègues et amis de Versus, tu vois. Si c'est un besoin qu'ils expriment, bah allez-y, faites-le, créez-la, votre fédération. En plus, l'État, pour le coup, vous avez entendu Emmanuel Macron, l'État est plutôt. Va plutôt en ce moment dans le sens de ça, de l'e-sport. Emmanuel Macron l'a dit, le ministre du numérique l'a dit, la ministre de la culture l'a dit, la ministre des sports l'a dit. Si on peut vous aider, on est là. Si on peut structurer une filière, si on peut vous accompagner, etc., on est là. S'il faut changer des trucs dans la loi, on peut y réfléchir. Donc je vous dis, en ce moment, ça va. Hein, le monde de l'e-sport, il avance. Il roule sa bosse. On va peut-être changer de sujet, hein, parce que du coup on a beaucoup parlé d'e-sport. Attendez, ouais, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet d'actu? La réforme des retraites, on en a parlé. Il y a Baxit. Vous venez dans le public demain? Qu'est-ce qui vient dans le public demain? Est-ce que vous venez boire des bières avec moi et avec le reste de l'équipe? Il y aura Usul, tout ça. Attends. Regardez. Hop, c'est ici le 26 janvier, c'est là. Regardez comme vous serez heureux et souriant quand vous serez dans le public demain. Et après, on mange des sushis, on boit des bières. C'est à Paris intramuros. Ouais, c'est à Paris intramuros. Venez, c'est trop cool. Est-ce que venir dans le public de Baxit, ça fait revenir l'être aimé? Oui, absolument. Ça rend les dents plus blanches et les cheveux plus soyeux. Je viens de prendre ma place. Très bonne idée. Des news du PS, j'ai l'impression que ça bouge pas leur imbroglio d'élection. Le Parti Socialiste fait son congrès vendredi, à partir de vendredi et pour tout le week-end à Marseille. Je sais pas exactement dans quelle situation ils seront à Marseille, ça risque d'être tandax. Je viens demain avec ma femme, juste pour les binous et pour venir te voir. Ah bah ça me fait plaisir! Ça offre un trimestre de retraite. Oui. Faire un don à Baxit offre un trimestre de retraite. Est-ce qu'on va parler du PS demain? On va un peu l'évoquer, ouais. On va un peu l'évoquer, même si on en a parlé la semaine dernière. On va un peu l'évoquer. On va parler de l'Ukraine, on va parler de la réforme des retraites, on va parler du rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'on sait pour l'invité? Vous le saurez sur Twitter. Vous le saurez sur Twitter quand ce sera annoncé. J'ai pas Twitter, est-ce que ce sera annoncé ailleurs? Sur Instagram. Étant au PS, je peux te dire qu'on sait pas quoi faire. On sait pas si Nicolas Maillard-Rossignol veut juste simplement saborder le parti. J'ai pas Twitter ni Insta, ce sera annoncé ailleurs. Non. Eh bah, ben, rendez-vous demain à 19h sur Twitch. Tu verras bien. Est-ce que t'as vu Rossignol qui a dit que ça méritait la prison, ce qui se passe avec le vote du PS? Oh là là. Non, alors, non, je suis désolé, je ne suis pas au quotidien et heure par heure les réactions et les réactions aux réactions de l'interne du Parti Socialiste. Je suis un peu, je lis des articles, mais je. Bon courage hein, à tous les gens qui se coltinent ça. Putain, vous imaginez si je devais faire ça pour tous les partis? Entre la France Insoumise, les écolos, déjà toute la gauche, le Parti Communiste, les Insoumis, oh là là. Tu rajoutes à ça En Marche, tu rajoutes à ça LR, le RN. Oh là là. Alors, moi, je préfère passer du temps à suivre les réformes qui sont en discussion au Parlement, l'actualité au Parlement européen, la guerre en Ukraine, etc. Ah non, j'ai déjà assez de boulot, les copains. Puis à côté, j'ai Baxit à produire, à animer, à préparer et tout. L'UDI. Ah ouais, faut pas oublier l'UDI. Le RN, c'est facile, tout le monde suit Marine. Ah, plus compliqué que ça. Il te faudrait une équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses. Ce serait bien. Une émission hebdomadaire en plateau d'actualité politique sur Twitch, avec des chroniqueurs et des chroniqueuses dans une ambiance très cool, où on parlerait sérieusement de sujets importants, on recevrait des invités politiques, des experts, des journalistes, avec des chroniques humoristiques, on apprendrait des trucs. Oh, ce serait trop bien! On appellerait ça siège arrière. Ah ouais, banquette arrière de Peugeot 206. Est-ce que tu comptes refaire un de ces quatre, un Tour de France des apéros pour voir des gens? Ouais, plutôt quand les beaux jours reviendront, le printemps prochain. Mais ouais, j'ai très envie de revenir vous voir, boire des coups et tout, faire des apéros, les apéros massiers. Venir vous voir dans vos villes et tout. Des gens paumis. Je suis allé à une conférence d'Adrien Clouet hier qui nous parlait d'à quel point les députés Renaissance eux-mêmes sont perdus et ne savent plus comment défendre la réforme des retraites. C'est quelque chose qui se ressent à ton niveau aussi. Oui, la réforme des retraites est une réforme difficile à défendre pour les députés de la majorité parce que c'est un sujet complexe. Il y a des situations très différentes les unes des autres. Wow! Merci Bankable TV pour ton raid, bienvenue à toi, bienvenue à vous, installez-vous. Et donc ouais, non, je disais, ouais, c'est un peu galère pour les députés en Renaissance de défendre la réforme des retraites, parce que c'est un sujet technique, parce que c'est une réforme impopulaire, mais en même temps, je trouve qu'ils ont tous les éléments de langage assez classiques, sauver le système par répartition, ne pas augmenter les impôts ni les cotisations pour ne pas alourdir le coût du travail et ne pas impacter les chances de reprise économique. Voilà, il y a une rotation, le maintien des dispositifs de carrière longue, l'amélioration de l'emploi des seniors, etc., les trimestres de grossesse comptabilisés. Donc bref, ils ont des arguments. Voilà. Est-ce qu'il y a des frondeurs dans la majorité? On ne peut pas encore parler de frondeurs à proprement parler, mais il y a quelques députés de la majorité qui ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas soutenir en l'état la réforme des retraites, qu'ils attendaient de voir comment évolue le texte au cours du débat parlementaire. Quand je dis quelques, c'est 5-6. Donc c'est pas énorme, hein. Il y a des rumeurs comme quoi LR va pas suivre, t'en penses quoi? Non, c'est pas des rumeurs, c'est qu'il y a quelques députés, peut-être une dizaine, une quinzaine du groupe LR qui ne souhaitent pas voter la réforme en l'état actuel des choses. On verra, il y a une différence entre voter contre et s'abstenir de voter, c'est pas la même chose. On verra ce que ça donne. Il y a Éric Ciotti et Olivier Marleix qui ont fait savoir qu'ils souhaitaient améliorer le texte, apporter davantage de garanties que ce qui a déjà été prénégocié. Voilà. Qui vient au Klim Libé Tour le 5 février à Bordeaux. Moi j'y serai. Moi j'y serai à Bordeaux, j'ai été invité par Libé. Mais je ferai un aller-retour dans la journée. Les frondeurs sont déjà partis en grande majorité chez Renaissance, type Villani. Alors non, Villani, c'était le quinquennat d'avant, il a pas été réélu, Cédric Villani. Et il n'est pas allé vers Renaissance, il a quitté Renaissance. Est-ce que c'est envisageable un référendum sur la réforme des retraites? Non. Non. Il n'y a quasi aucune chance qu'on ait recours à un référendum. Aucune chance qu'il y ait une majorité au Sénat pour ça. Aucune chance qu'il y ait une majorité à l'AN pour ça. Aucune chance que le président de la République soit favorable. Donc n'y croyez pas trop. Par contre, le parti Renaissance, ça aussi, c'est une nouvelle carotte. Pourquoi? C'est pas une carotte, Renaissance. Ben, c'est un parti politique, quoi. C'est le nouveau nom du parti En Marche, qui a été réformé, avec Territoire de Progrès, avec En Commun, etc., etc. Villani est parti chez Europe Écologie Les Verts. Villani avait quitté La République En Marche, il avait co-créé le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, il avait soutenu Delphine Batho à la primaire des écolos à la présidentielle, il a été investi par la NUPES dans sa circonscription de l'Essonne pour la législative. Voilà. Même pas un référendum d'initiative partagée? Non, il n'y a aucune chance. Un référendum d'initiative partagée, pour que ça arrive, il faut 3 millions de signatures. Et de toutes les façons, il faut un vote du Sénat. Donc, enfin, C'est juste encore des parties de manche gamelle. Enfin non, non, c'est pas des parties de manche gamelle, c'est des parties de des gens qui soutiennent l'action d'Emmanuel Macron. C'est aussi simple que ça, hein. Le mec s'est fait élire chez LREM et soutient Delphine Bateau, cette girouette. Non, il faisait partie des. Il faisait partie des gens qui avaient été élus. 10 subs! 10 subs, incroyable!
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci pour les thunes. Merci Citizen K pour ton soutien. Merci beaucoup pour les 10 subs offerts au chat. Je trouve ça dommage qu'on parle si peu du Sénat dans les médias traditionnels, on parle que de l'Assemblée nationale. Bah oui, mais en même temps, comme le Sénat n'a pas le dernier mot sur les lois, c'est plutôt à l'Assemblée nationale que se font et se défont les politiques, surtout dans ce quinquennat. Jean, si t'es un abonné qui gagne 100 000 euros annuels net, qui te regarde régulièrement et qui voudrait contribuer, quel serait le montant mensuel adéquat d'après toi? Quel que soit le montant du don. C'est pas à moi de dire le montant du don, c'est à moi de dire merci. Cent mille euros net par an? Par mois ou par an, t'as dit? Ah non, par an. J'en sais rien, il fait ce qu'il veut. Mais si c'est ton cas, envoie-moi un message et et on trouvera un moyen. Mais le Sénat fait la loi, le dernier mot en pratique est peu fréquent et la majorité en CMP réévaluait le pouvoir de la haine. Oui, bien sûr, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, le Sénat n'est pas à négliger. Moi, je vous ai toujours expliqué en long, en large et à travers que c'est pas parce que le Sénat n'a pas le dernier mot qu'il est inutile, loin de là. La grande majorité des amendements apportés par le Sénat dans les projets de loi sont conservés par l'Assemblée nationale. C'est bien la preuve que c'est pas totalement inutile ce qu'ils font. Let's go, j'ai pris ma place pour demain. Ah, tu fais plaisir. Tu fais plaisir. 49,30 € par mois, ça me semble adéquat. Ah, 49,3. Tu peux devenir sponsor. Tu peux devenir sponsor, ouais. Tu peux devenir généreux donateur. Salut Pantoufle. Je suis extrêmement charismatique, fort, séduisant, je devrais donner combien? Envoie une mèche de cheveux. D'ailleurs, s'il y a parmi vous, ça j'en parlais déjà en stream la dernière fois, s'il y a parmi vous quelqu'un qui sait, enfin qui a du temps le mois prochain, qui est chaud pour faire une mission freelance ou salariat d'ailleurs, pour m'aider à booster la campagne de financement participatif de Baxit, je cherche à recruter quelqu'un. Voilà. Disez-moi. Mais plutôt quelqu'un de capé en matière de crowdfunding. Où qu'on postule, bah c'est mon mail pro qui est dans ma bio Twitter pro@jeanmassier.fr. Sinon, le PFC, le Parti français des citoyens. D'accord, mais il défend quoi comme idée ce parti? Je connais pas. Une annonce quelque part, je connais plusieurs personnes qui peuvent t'aider. Il n'y a pas d'annonce, on cherche plutôt dans notre réseau de connaissances proches. L'idéal, c'est de recruter quelqu'un qui connaît déjà Baxit, qui connaît déjà ma chaîne, qui a déjà bossé sur des campagnes de financement participatif, Et c'est pas un side project, hein, c'est plutôt un boulot. Il y aura du boulot tous les jours. Je suis extrêmement motivé, mais parfaitement incompétent. Merci, c'est honnête. Pendant un mois, ouais, pendant tout le mois de février, ouais. Et on pourra continuer à bosser ensemble à l'avenir, mais là, en tout cas, l'urgence, c'est là pendant un mois. Si c'est quelqu'un à Paris, c'est encore mieux. Mais c'est pas impérativement nécessaire. Je propose le PFDC, Parti français des citoyens, c'est moi qui va le créer, qui même me suivent, on prône la parole du peuple avec. Bah bon courage pour les élections. Est-ce que tu crois à l'émergence de partis politiques numériques en ligne dans le futur? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça veut dire quoi, parti politique numérique, en fait? C'est parce qu'en fait, tous les partis politiques sont déjà numériques, dans le sens où ils ont tous un site internet, ils ont tous des boucles WhatsApp de discussion, machin, ils ont tous des adhésions possibles, etc. Donc, je sais pas. D'ailleurs, comment ça se passe cette campagne de financement à ton goût? J'ai sous-estimé la quantité de travail que ça demandait. J'ai passé énorme, et je continue à passer énormément de temps à bosser sur le reste de l'émission, parce que comme je suis producteur, avec mes confrères, on bosse sur beaucoup de choses, et du coup, j'ai sous-estimé la gestion de la campagne de financement participatif. Ah yes, il y a quelqu'un qui vient demain dans le public. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de reprendre la main sur la campagne, mais j'ai besoin d'être aidé pour ça. Et c'est pour ça que je recrute quelqu'un. Parce qu'il faut améliorer les choses, il faut qu'on avance sur les contreparties, il faut qu'on communique mieux et plus, il faut qu'on aille chercher un nouveau public et tout. Donc ça demande du travail. Et c'est un travail que j'ai sous-estimé. Quel est ton avis sur le Parti Pirate? Bah justement, non, je pensais au Parti Pirate parce que le Parti Pirate, on l'a déjà interviewé sur Baxit l'année dernière. Et c'est un bon exemple, le Parti Pirate. Effectivement, de parti qui réfléchit aux enjeux numériques et qui a un mode de fonctionnement qui, je crois, est assez numérique. Concrètement, ça te demande quoi comme taf de tout gérer une telle campagne? En fait, une campagne de financement participatif, ça demande déjà une stratégie, avec un rétro-planning précis, avec des communications précises sur les différents réseaux sociaux, avec des relations partenariales, relations presse, etc. Ça demande de créer des visuels. Ça demande d'animer, de créer des contreparties, de répondre aux questions, des personnes qui donnent, inciter les gens à donner, trouver des meilleures méthodes, trouver des contreparties, etc. Ça demande tout un travail. Et c'est un peu tous les jours, quoi. Niveau audience, pour l'instant, t'en penses quoi? Bah, moi, je suis très content. L'ambition de Baxit, c'est de s'adresser surtout à des gens éloignés de la politique. Donc, tant qu'on touche des gens et tant que je reçois des messages de gens qui me disent merci pour Baxit, grâce à toi, je m'intéresse plus à la politique, alors je suis très content. On a fait des bonnes audiences sur les deux premières émissions. On verra comment ça continuera à l'avenir. Je pense qu'il y avait l'effet nouveauté, donc si ça baisse légèrement, c'est normal. Donc voilà, non, 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 c'est que je suis très content de l'audience de Baxit. Désolé d'être une tanche en management, mais c'est quoi un rétro-planning par rapport à l'aquaplanning? Merci Romain pour ton prime. Ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est que tu prends une date, c'est notamment dans l'événementiel. C'est de la méthodologie de projet, hein, tu apprends ça dans l'associatif ou machin, mais tu prends la date de ton événement et tu fais un planning rétrospectif en partant de la date de l'événement et tu fais J-1, J-2, J-3, J-4, J-5, etc. Et tu fais ton rétro-planning jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et comme ça te fait toute ta feuille de route jusqu'à l'événement, et tu sais quel jour tu dois envoyer les choses, quel jour, qu'est-ce qui doit être fait, etc. C'est ça ce qu'on appelle un rétro-planning. Par exemple, le lancement de Backseat, bah, nous, on avait un rétro-planning. La première émission, c'est telle date. Et bah, à J-temps, on doit avoir fait ça. À J-temps, on doit avoir machin. Tel jour, au plus tard, il faut que machin soit dans la boucle. Là, il faut qu'on ait signé le contrat de truc. Là, il faut qu'on ait prévu ça. Là, il faut qu'on ait le graphiste. Là, il faut qu'on ait ça. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça qu'on appelle un rétro-planning. Tous les projets peuvent être planifiés en rétro-planning. Bah, c'est surtout quand il y a une date de fin que tu fais des rétro-planning. Si c'est un projet qui est en roulement, c'est des méthodologies différentes, quoi. Mais c'est de la bière au frais, j'arrive. Merci Thomas, on se voit demain. Merci Thomas. Donc voilà. Donc rien à voir avec les pattes def ou la coupe mulet. Exactement, rien à voir. Te remercier pour de mettre les épisodes Backseat en podcast. Je peux pas la garder en direct, mais du coup c'est cool de pouvoir les écouter plus tard. Ouais, ça, bah écoute, ça me fait plaisir, tant mieux. Backseat est en podcast, j'espère que ça vous plaît. J'ai aucune information sur les écoutes, mais c'est vous qui m'aviez demandé de le mettre en podcast, donc on l'a mis en podcast. C'est toujours le jeudi Backseat. Ouais. Ouais. J'écoute aussi en podcast. Eh ben écoute, tant mieux. On le trouve où le podcast? Sur toutes les plateformes de podcast, je crois. Hein. Spotify, Deezer, Apple Podcast. SoundCloud, je sais pas. Si on peut pas rentrer le soir même, est-ce que tu as un canap de dispo? Non, j'ai pas de canap de dispo le soir de Backseat, désolé. Mais, alors oui, par contre, si vous n'habitez pas à Paris et que vous voulez venir dans le public de Backseat, etc., si vous cherchez un canap pour dormir, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la communauté et vous pourrez trouver des gens pour vous accueillir à Paris. Hein. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Pareil, si vous voulez faire du covoit, des trucs comme ça, ça s'organise. Hein. C'est devenu mon rituel du vendredi matin, le podcast de Backseat. Merci pour ça. Ah bah écoute, je suis très content, Jax. C'est quoi la moyenne de viewers en direct et ton objectif? Bah là, on a fait que deux émissions, donc on va pas commencer à tirer des moyennes. Mais la première, on était arrivé à 16 000 viewers, la deuxième à 13 000. Mais la première, on était en homepage. J'ai pas d'objectif. Enfin, j'ai pas d'objectif. C'est sûr que si je fais que 20 viewers, je vais me poser des questions. Mais l'objectif, c'est la lune. Donc, je suis très content. Hein. Des milliards. Il y a combien de jeunes dans ce pays? 16 millions, je crois. Il y a 70 millions d'habitants, 16 millions de jeunes. Voilà. Concurrencer Popcorn. Bah non, on concurrence pas Popcorn, c'est pas sur le même thème, c'est pas le même jour, c'est pas sur la même chaîne, non, non, y a pas de concurrence. Est-ce que je peux pas regarder Backseat avec mon père? Bien sûr que si. Merci Bûcheron PW qui a acheté un mug. Énorme. Est-ce que tu vas faire partie des réguliers de l'émission de Samuel Etienne le vendredi du coup? Bah je sais pas, j'ai cru comprendre que Samuel souhaitait m'inviter régulièrement dans son émission et j'en suis très honoré et très heureux. J'aime beaucoup Samuel, j'aime bien son émission et je suis très heureux à chaque fois d'y aller. Donc s'il me réinvite, j'irai avec grand plaisir dans son émission. Est-ce que le vin y est bon? Ouais, en plus c'est moi qui l'apporte parfois. C'était cool la dernière. Ouais, non, mais moi j'aime bien l'émission de Samuel, son ambiance. Avamind est trop pertinente, je trouve. J'espère qu'elle sera régulièrement invitée. Avamind, c'est la meilleure meuf de l'histoire. Ça a été prouvé scientifiquement par des études américaines. Avamind égale meilleure meuf. Vous pouvez clipper et lui envoyer, hein, évidemment. Ah oui, tiens, d'ailleurs, message de service. Quand vous faites des clips, merci pour vos clips, ça fait plaisir. Mettez des titres au clip. Laissez pas le titre du live en titre de clip. Voilà, fin du message de service. Absolument à égalité avec Clara Luciani et Horty. Horty aussi meilleure meuf. Bagheera aussi meilleure meuf. Magla meilleure meuf. Trivia meilleure meuf. Gomard meilleure meuf. Angle droit meilleure meuf. Toutes les streameuses meilleures meufs en fait. Trini, Ultia. Ah tiens d'ailleurs, on va faire un sondage. Pour savoir la parité dans mon chat, est-ce que vous êtes un mec ou une meuf? Hop, 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 voilà, vous avez le chat, vous avez le vote dans le chat, vous cliquez, vous votez, vous me dites si vous êtes un zouz ou une zoulette ou autre. Ça m'intéresse de savoir. Je connais déjà un peu la proportion. Mais ça m'intéresse de savoir en termes de zouz et de zoulette. Zouz égale nana. Bah non, Zouz c'est un mec. C'est Zoulette la nana. Ah ouais, l'expression avec ta Zouz. Ouais, mais ça marche aussi au masculin, ton Zouz. Pourquoi je vois pas le sondage? Moi, il est caché par le train de la hype. Comment je fais pour le bouger, le train de la hype? Bon, quand on arrivera à la fin du sondage, j'espère que je le verrai. Jamais entendu ton zouze. Ah, moi j'ai déjà entendu. Oh. Ne réduis pas à deux choix. Mais il n'y a pas deux choix. Clique dessus, tu verras bien. Tu peux cliquer sur autre si tu te genres pas comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais, train de live, tout ça, c'est sympa. Mais du coup, je vois pas combien de temps il reste sur le. Ah non, mais à cause du train de live, je vois pas le résultat du sonding. Oh. Attends, normalement je peux le voir si je vais là-dessus. C'est 77-19-4. Ok. Eh ben, il y a plus de meufs que ce que je pensais. Mais ça ne m'assure pas pour. Non, non, mais ça je le savais déjà. Hein. C'est le festival de la saucisse, ma chaîne, ça je le savais. C'est le festival de la saucisse. Il y a un cinquième de meufs. Et 4 cinquièmes de mecs. Ouais. C'est la merguez partie. Ouais, non, je sais. Twitch en général. Non, pas Twitch en général, ça dépend des chaînes. Les streameuses meufs sont un peu plus paritaires que les streams mecs. Non, bah c'est dans les ordres de grandeur que je connaissais. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Sondage, sondage, sondage. Voir les résultats. Ah, c'est ça, 77-19-4. Ouais. Ok. C'est le festival de la saucisse. Comment on féminise? Je sais pas. Je connais un streamer mec qui a 80-20 filles garçons. C'est qui? Je te connais de jet d'encre, ravi de voir que t'as réussi. Arrête, t'es qui? Smogogogo. Et qui te dit que j'ai réussi? Ma vie est un échec, hein, je te rappelle. J'étais en service civique. Tu t'appelles comment? Rappelle-moi les bons souvenirs. Ça pourrait être bien de suivre l'évolution de cette partition dans l'évolution de la chaîne. Pour le coup, c'est standard depuis des années, hein. J'ai toujours eu entre 75 et 85% de bonhommes. À chaque fois que j'ai fait des sondages, ça a toujours été ça. Est-ce qu'on va avoir de nouveau des streams Jean Massière ou t'as plus le temps? Là, j'ai plus trop le temps parce que backseat tout ça, donc voilà, en MP uniquement. Ouais, bah envoie MP. Mais big up à toi en tout cas. Et sur YouTube, c'est plus équilibré? Je crois pas. Je vais aller vérifier. Attends. YouTube Studio. Hop, 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 hop. Données d'analyse. Audience. Spectateurs réguliers. France, Belgique, Suisse, Canada. Oui, ça d'accord. Abonnés, non abonnés. Hommes, femmes. Ah putain, c'est encore pire. Il y a 90% de bonhommes. Il y a 90% de bonhommes sur YouTube. Oh la vache. C'est pas bien. Et on est toujours sur 85% entre 18 et 34 ans. Ça bouge pas. On vit vraiment dans une saucisse. Ah bah ça. Peut-être que l'horaire n'aide pas. Tu penses? Non. La politique est-il un domaine de gros porcs? Non, alors blague à part. Les éléments qui expliquent en partie qui expliquent en partie pourquoi il y a autant de mecs par rapport aux meufs sur ma chaîne, moi j'en identifie trois. Le premier, c'est la plateforme Twitch qui peut renvoyer à l'imaginaire jeux vidéo masculin pour des femmes qui peuvent du coup avoir l'impression que c'est une plateforme qui n'est pas trop pour elles. Et je peux le comprendre, compte tenu de l'image véhiculée souvent. Du jeu vidéo, y compris par des joueurs eux-mêmes, hein, la toxicité, la misogynie, etc. Je suis pas en train de dire c'est les méchants médias, non, 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 non. Sur Internet, il y a des mecs qui se comportent bien comme il faut pour éloigner les meufs du jeu vidéo. Il y a le fait que la politique est un sujet à dominante masculine, avec pas assez de femmes dans les partis politiques, dans les élus, dans les ministres, etc., dans les dirigeants. Et ça, c'est un problème structurel du patriarcat. Qui fait que des femmes peuvent aussi avoir l'impression que les sujets que j'aborde ne s'adressent pas autant à elles qu'à des mecs, et ça je peux le comprendre. Et le troisième élément, c'est le fait que je sois moi-même un mec, un zouze, qui fait que l'identification facilite pas, facilite, est plus facile pour les mecs que pour les nanas. Donc pour moi, c'est les trois éléments qui peuvent expliquer. Il faudrait vérifier la proportion garçon-fille sur Twitch. Enfin, c'est moins. C'est plus déséquilibré sur ma chaîne que la moyenne de Twitch. Je crois que c'est 65% de garçons sur Twitch. On est sûr de ça. De mémoire, c'était les chiffres qui avaient été communiqués. 78% mail et 22% female. Ah ouais? C'est des chiffres sur Google en 2022? Mais c'est niveau monde ou en France? Je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est si grave que ça? Chacun fait ce qu'il veut, fille ou garçon, on n'exclut personne. Ah bah encore heureux, déjà. Est-ce que c'est grave? Non, mais c'est un déséquilibre qui est intéressant à adresser. Je serais heureux qu'il y ait davantage de parité dans le public, dans mon public, c'est tout. Plus de parité égale plus de viewers égale plus de dollars. Ouais, plus de meufs, elles ont du pouvoir d'achat. Ce qui est pas vrai. Le mec qui se dit, attends, les meufs, elles vont pouvoir claquer leur argent et du coup, on aura plus d'abonnés. Ouah, trop bien. Non. Ça continue d'inviter des gros misogynes en plus des gros events chaque année à Twitch. Hein? J'ai pas compris. C'est les stats monde. 78. Ok. Ok. 78-22. Bon, bah, du coup, j'ai les mêmes répartitions que Twitch, quoi. YouTube considère comme masculin un compte avec aucun genre référencé. Je croyais que c'était plus vrai, ça. Je croyais que c'était vrai par le passé, mais que c'est plus vrai. Après, ça dépend aussi du programme de stream. Quand il y a du Flight Simulator, par exemple, moi j'ai tendance à déconnecter. Ah, mais ça c'est normal! Ah non, mais ça c'est normal. Ça, de toute façon, alors quand je fais des streams Flight Simulator, c'est sur mon temps perso. C'est parce que ça me fait plaisir. Enfin, ça me fait toujours plaisir de streamer, mais je n'ai aucune ambition d'audience sur mes streams Flight Simulator. C'est vraiment peinard, on se détend, on joue à un jeu, on parle pas de politique. C'est normal s'il y a moins de monde qui regarde. Je cherche pas à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde qui regarde. Je suis peinard. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, hormis Flight Simulator, tu fais d'autres jeux en stream? Ça peut m'arriver, ouais, ça peut m'arriver, ponctuellement. Ça peut m'arriver. Mais voilà, moi les streams jeux vidéo, c'est vraiment... je veux pas avoir de planning jeux vidéo. Je joue si j'ai envie. Je joue aux jeux auxquels j'ai envie de jouer en ce moment. J'ai pas envie de me forcer à avoir un programme de stream, etc., de jeux vidéo. C'est en fonction de l'envie. Il y a des périodes dans lesquelles je vais beaucoup jouer à tel jeu parce que j'ai envie. Il y a d'autres périodes où je vais me remettre à un autre jeu. Peinard, quoi. Peinard, peinard, peinard. Est-ce que tu joues beaucoup dans ton temps libre? En ce moment, non. En ce moment, non. À chaque fois que je joue, vous me voyez. En ce moment, je... Mais ça dépend beaucoup des périodes de l'année. Avant, quand j'étais en coloc, avec mon coloc, on jouait à LOL le soir pour se détendre en buvant une bière. Après, je peux avoir des potes avec qui on se fait des sessions de temps en temps, mais là en ce moment, là depuis plusieurs mois, je suis full backseat donc boulot, boulot, boulot. Tu vois, là je vais arrêter mon stream, je pense vers 18h. Après, j'ai encore des coups de téléphone à passer et je vais être claqué donc je vais aller dormir. T'es full backseat, ça doit pas être évident pour jouer effectivement. Ouais, mais bon. Non, mais après c'est un plaisir, mais c'est vrai que voilà, ça dépend des périodes de l'année. Il y a des moments où j'ai trop envie de jouer à plein de jeux, du coup bah je vais jouer à plein de jeux. Il y a des moments où je m'en branle. Merci Jagatai qui a acheté un mug. Ta bière préférée? La Fougue. Qui est une bière locale, bio, bretonne. Ambrée. Il a pas compris la blague, elle était belle. Si, 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 je l'ai compris après. Backseat. Est-ce que tu stresses avant les émissions? Non. Enfin, je stresse pas avant les émissions Backseat pour les raisons que vous pouvez croire. C'est-à-dire parce qu'il y a du public. Parce que... Non, non, en fait, ça me stresse pas du tout. Au contraire, j'ai hâte. Moi, j'adore streamer, j'adore animer Backseat et tout. Donc, je suis pas stressé par ça. Je suis stressé pour plein d'autres trucs d'ordre de production, en fait. Mais je stresse pas pour l'animation de l'émission. Au contraire. Mais je stresse pour plein d'autres trucs. Est-ce que l'invité va être à l'heure? Est-ce que le flux va être bon? Est-ce qu'il n'y a pas une lumière qui va lâcher? Est-ce que les micros? Est-ce que le titre du stream? Est-ce que... Enfin, tu vois, c'est... Voilà, j'ai des stress de producteur, quoi. Voilà. Mais j'ai pas de stress d'animation, au contraire. Le stress pour que ce soit quali. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Est-ce que le quiz à la con va marcher pour les viewers? Ouais, on est dessus. On est dessus. Le quiz à la con, ça passera par des sondages dans le chat. Le plus gros souci technique sur Backseat jusqu'à présent? Cette année? Bah, cette année, on a fait que deux émissions. On a eu des problèmes de son sur la première. Sur la deuxième, on n'a pas eu de soucis techniques majeurs. Hein. Et sur la saison 1, un jour, on a eu un plantage en régie qui a fait qu'on a démarré avec une demi-heure de retard. Un jour, on a eu le stream, je crois, qui a sauté en fin d'émission. Pour un problème de connexion. On avait des images qui n'étaient pas au top. Non. Usul est là demain. Ouais. Ouais. D'ailleurs, il faut que je dise à mes chroniqueurs. Ah, putain, il faut que je pense à leur dire demain avant le début de l'émission qu'il ne faut pas applaudir devant les micros. Parce que ça fait partie des petites améliorations que sur Backseat. C'est que quand on applaudit devant nos micros. Quand on applaudit devant nos micros, regardez, je vais vous montrer. On est toujours sur le plateau avec mes chroniqueuses, Léa, Claire et Sacha. Et chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir un invité politique de premier plan. Cette semaine, nous recevons l'homme qui fait l'actualité du jour et de la semaine, et peut-être des semaines qui viennent, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. En fait, là, on entend les applaudissements de Sacha ou de Claire, je ne sais pas. Et du coup, ça cut le son du public qu'on entend moins bien. C'est le sidechain, ouais. Donc c'est pas grave qu'on entende les applaudissements des chroniqueurs, ça je m'en fous. Le problème c'est que ça, du coup, ça étouffe le son du public. Or, c'est plus intéressant d'avoir des applaudissements d'un public que d'avoir. Là, vous entendez, on entend que. Oh, et encore là, c'est pas le pire. Et encore là, c'est pas le pire. Attends.
Vous voyez, comme je baisse la barre des fois, mais évidemment, oui, c'est pas mal. 2 millions, ça faisait très longtemps.
Avec le moment que vous êtes nombreux à attendre, c'est la chronique de Vincent. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent.
Ouais, là, je trouve qu'on l'entend beaucoup. Là, je trouve qu'on l'entend beaucoup. Donc voilà, enfin bref, vous voyez, c'est des petites améliorations comme ça. Donc, il faut que je pense à dire à mes chroniqueurs demain, on n'applaudit pas. Je leur ai dit ce matin en réunion qu'il fallait qu'on retravaille la manière de poser les questions. On a déjà réglé plein de problèmes, il y a déjà plein de trucs qui ont avancé.
Je possède des tubes.
Non, chut, tais-toi. Quoi d'autre? On a plein de détails, plein de trucs d'accastillage, de plateau, d'entrée, de sortie, etc. C'est C'est surtout sur la post-prod qu'on doit encore... Oui, puis même sur le format des fichiers qu'on envoie à la régie et tout. Enfin, il y a plein de trucs derrière le rideau, vous vous en rendez pas compte, mais nous, il faut qu'on s'améliore sur plein de trucs. Dans la communication, on a quand même progressé. Les questions super longues, ouais, non, mais ça j'en ai parlé ce matin, mais elles étaient d'accord avec moi, hein, les chroniqueuses, elles m'ont dit oui, effectivement, il va falloir qu'on retravaille un peu ça. Est-ce qu'il y a moyen de chapitrer les épisodes sur YouTube? Faut demander à PEMF. Est-ce qu'il y a moyen? Je sais pas. Est-ce que vous allez réinviter Philippe Martinez? Non. Est-ce que tu re-rewatch tout Backseat pour trouver les soucis? Oui, bien sûr. Je regarde très souvent rétrospectivement mes émissions, certains de mes streams aussi, pour faire mon autocritique, camarade. Et je suis assez salé. Je suis assez sévère. Mais c'est normal, je suis perfectionniste. Je veux que mon public ait le meilleur. Merci Simon. Qui vient dans le public demain, ça fait plaisir Simon. Les invités politiques sont prévus combien de temps à l'avance? Bah, c'est toute la difficulté. C'est que ça dépend de l'actu, je peux pas vous dire quel est l'invité de la semaine prochaine, parce que ça dépendra de l'actu de la semaine prochaine. On essaye de caler au mieux, et c'est pas toujours facile. Un petit vol Flight Simulator? Ah non, pas ce soir, non. Non, non, veille de backseat, je vais dodo. Hein. Demain j'ai du taf. J'ai trouvé très intéressant Martinez, je l'avais jamais entendu comme ça. Enfin, il a pu développer ses idées contrairement à souvent dans les médias. Ouais, mais c'est le but, hein, c'est le but de Backseat. Mais ce sera pareil aussi avec les membres du gouvernement, avec les membres de la majorité, avec des gens de droite et tout. On leur donne le temps de s'exprimer, de s'expliquer, de rentrer en profondeur dans le sens de leur action et de leur ambition et de leurs idées. On essaie de les comprendre. Tu vas dodo, d'accord, mais depuis quel aéroport? Pourquoi être obligé de caler avec l'actu? Parce que c'est la ligne que j'ai décidée. Faire de Backseat une émission d'actu, ça implique de coller à l'actualité. Est-ce que vous allez inviter des membres de partis d'extrême droite? Non. Désolé, si ça vous manque, il y a beaucoup de médias qui leur donnent la parole. Vous pourrez retrouver sur Internet assez facilement leurs idées, leurs propositions et autres, et leurs analyses, mais pas sur le plateau de Backseat. Est-ce que les invités ont du mal à venir ou est-ce qu'ils profitent de l'opportunité de s'exprimer? Non, c'est pas. En fait, on n'a pas plus de difficultés qu'un autre plateau pour accueillir des politiques ou des invités. On n'a pas plus de difficultés que les autres. Hein. On colle à l'actu. Les gens qu'on invite sont généralement très demandés parce qu'ils sont dans l'actu. Donc c'est normal, on est en concurrence avec tout le monde. Avec les autres médias et les autres médias ils galèrent comme nous hein. Voilà. Il y a quoi au buffet sur Backseat? Il y a du saucisson, du fromage, de la charcute, des nems et des nems VG. En tout cas c'est ce qu'il y avait la semaine dernière. Je sais pas ce qu'il y aura demain, c'est Thomas qui s'en occupe. Vous le rencontrerez demain quand vous viendrez. Et il y a de la bière, du vin, des softs. Aussi pour le public. Ah mais c'est que pour le public ça. Hein. Merci Cloud Atlas pour ton Prime. Du rhum et des femmes. Putain. Est-ce qu'il y a du halal? Non, on a prévu une option VG. Mais s'il y a des personnes qui souhaitent avoir des restrictions particulières, faut pas hésiter à nous le dire. Enfin, à le dire à Thomas qui vous envoie un mail avant l'émission. Et on prévoira bien évidemment ce qu'il faut. J'en reviens toujours pas d'avoir eu Philippe Martinez le soir d'une grève générale contre une réforme des retraites encore chapeau. Bah merci. Merci. Bah écoute, c'était du boulot, mais moi aussi j'en suis content. Et puis on va essayer de continuer. Est-ce qu'il y a une option sans alcool?
Oui.
Je ne mange que du sanglier chassé de manière traditionnelle. Relou. Merci, Megwina. Merci beaucoup. Donc, je mange que du targ bien cuit et du gag bien gigotant. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris. Merci Dakik pour ton don, merci beaucoup. Et merci Biome Jaune, Bioman Jaune, qui vient depuis qu'il a appris ce qu'il y avait à bouffer. Bah écoute, on se voit demain Bioman. En vrai, je pense que pour les analyses des médias, cette première de Backseat marque certainement une étape dans la légitimation du live internet dans la politique. Sans doute, oui, sans doute. Mais en avait-on réellement besoin? Enfin, tu vois, oui, peut-être, mais je... Il n'y a pas de quête de légitimité de ma part ou de la part de Backseat. Backseat va très bien. Hein. Les politiques connaissent, ils répondent à l'invitation, ils viennent. Je vous l'ai déjà dit, hein, l'image que se font la télé, la radio et la presse écrite de Backseat, je m'en tape vraiment. C'est pas intéressant. Voilà, je ne suis pas en quête de légitimité auprès des médias traditionnels. C'est pas grave, quoi. Est-ce qu'il y a un défraiement des transports si on vient voir Backseat depuis une autre ville? Non. Navré. Mais n'hésitez pas à prendre votre place à l'avance si vous savez que vous venez à Paris un jeudi. C'est pour ça qu'on met les places en vente... 4 ou 5 émissions avant. Donc si vous savez que vous êtes à Paris dans les prochains jeudis, prenez une place pour les prochains. On n'a pas ta perspective, mais du point de vue du spectateur, on a tendance à se sentir un peu méprisé quand on dit qu'on regarde des lives sur Twitch. Ah oui, d'accord. Non, mais tant mieux, écoute... Tant mieux, très heureux si ça peut participer à aider la plateforme à grandir, à aider le live, etc. Mais c'est pas un... J'allais dire, c'est pas un objectif. Bah si, aussi. On s'est connus à l'époque des What the Fake avec Aude. Waouh, à l'ancienne. J'avais fait ça l'an dernier pour entre les deux tours législatifs, ça s'était arrêté avant. Ouais, putain, m'en parle pas. Mauvais souvenir. D'ailleurs, pour les personnes qui... les contreparties du financement participatif de l'année dernière sont en train d'être envoyées. Parce que là, si on prend un sweat, t-shirt, tasse, ça arrive que l'an prochain. Non, justement, on a changé de méthode pour pas se retrouver dans la difficulté de l'an dernier. Là, quand vous achetez un sweat, un t-shirt, une tasse, c'est livré directement, c'est imprimé à la commande, etc. et on ne s'occupe pas, c'est pas nous qui nous occupons de l'envoi, etc. Printon demande. Ouais. Je valide, j'ai reçu ma tasse très vite. Ouais, moi aussi, moi, quand j'ai commandé mon t-shirt, mon sweat et ma tasse, je les ai reçus. Je les ai reçus en 4 jours, je sais plus, 4-5 jours, un truc comme ça. Tu ne signes pas chaque mug. Eh non, désolé. Est-ce que tu penses que le président viendrait dans Backseat? C'est oui, oui, oui. C'est pas à moi de le décider, c'est à lui. Enfin, de le décider, de l'accepter le jour où on l'invitera. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais est-ce que je pense que c'est dans son intérêt? Bah, c'est à lui de décider s'il pense qu'il a besoin de parler aux jeunes ou pas. Comment est-ce que tu choisis les potentiels chroniqueurs pour l'émission? C'est des gens que je connais en général, c'est des gens dont je connais le travail, dont je connais la pertinence, l'analyse, et je les contacte, je leur propose, voilà. Et puis après on teste, et puis, si ça fait des chocs à pic, ils reviennent. Sommes-nous vraiment des jeunes? Après les zouzes et les zouzettes, un autre sondage. Mais non, mais ça je le sais déjà. Vous êtes 40% à avoir entre 15 et 25 ans et 24 ans, et 40% à avoir entre 25 et 35 ans. Ça je le sais déjà. Merci à l'illustre inconnu qui a acheté l'indispensable mug Backseat. Est-ce que tu as un format pour inviter des personnes non connues? J'ai un collègue qui fait une thèse sur le pouvoir d'achat très intéressante. Non, malheureusement. Je suis désolé, hein, mais toutes les personnes qui m'envoient des mails pour me dire « Ouais, il faudrait que tu invites mon pote, il faudrait que tu invites mon frère, il faudrait que tu invites mon père, faudrait que... » Ouais, dans l'absolu sûrement, mais non. Désolé. Merci Vargas pour ton don à Backseat, merci beaucoup. Je pense que le président croirait à un traquenard. Bah non. Non, après il connaît l'émission. Non, mais enfin, il fait ce qu'il veut, hein, le président de la République, c'est pas moi qui. Moi je maîtrise pas sa com, j'ai pas envie de le faire non plus, donc il se débrouille. Après, s'il veut laisser comme seul souvenir d'avoir fait un feat avec McFly et Carlito, bah, je dis ça, mais il avait fait une interview avec Hugo Décrypte avant les européennes en 2019. En tout cas, s'il veut venir faire. Parler de sa politique et l'expliquer sur le plateau de Backseat, je serais heureux de le recevoir. Voilà. Parce que je pense que c'est un invité intéressant. Est-ce que tu rémunères les invités politiques pour venir? Non, jamais. Les invités politiques ne sont jamais rémunérés. Un invité n'est pas rémunéré puisqu'il ne fournit pas un travail. Et il reste libre de ses propos. Il vient pour répondre à des questions qu'on lui pose. Il vient, il met les pieds sous la table. Les chroniqueurs, par contre, fournissent un travail. Ils ont un travail de préparation à faire, ils ont un travail de. Ils collaborent à l'animation de l'émission, etc. Est-ce qu'ils sont défrayés? Ça dépend. On peut leur caler un taxi si ça peut aider. On peut. Ça dé... Mais on peut, ouais. Après, on peut pas se permettre de payer un aller-retour en train à tous les invités politiques. Femme de plus de 35 ans, je me sens très minoritaire. Mais non, Séverine, t'inquiète pas. Je suis en train de regarder pour acheter un mug, je vois fabriqué en Chine, imprimé aux USA. Est-ce qu'on peut payer plus cher pour une version made in France, Europe ? C'est pas du tout moi qui ai la main dessus. C'est un shop, c'est Utip qui choisit de travailler avec ses partenaires, machin. Je n'ai absolument pas la main là-dessus. Yeah, c'est le seul mug qui est disponible dans le shop. Première fois sur ton live, j'ai regardé tous les best-of et les FAQ politiques de ces deux dernières années, j'adore. Bah, bienvenue à toi. Combien prend Utip sur les commandes du merch backseat ? Je sais pas. Sur les commandes du merch, je t'avoue que je sais pas. Ça doit faire partie des frais généraux avec l'impression et, et l'envoi, donc je sais pas. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que Utip soutient Backseat. Ils ont accepté de revoir à la baisse la commission qu'ils prennent sur le financement participatif et je les en remercie. C'est cool d'être soutenu par l'équipe de Utip. Ils aiment bien l'émission, ils me connaissent, je les connais. On s'entend bien. Et donc voilà. Donc je suis très heureux. Tiens, c'est 0,16€ de frais avec une carte bancaire et 0,40€ avec PayPal, je suis surprise. Pourquoi t'es surprise ? C'est toujours été comme ça, non ? Merci pour ton don, le bot à Dudule. Merci beaucoup. C'est cool d'avoir un ancien pilote de Rafale en live. Écoute, quand on peut régaler le public. Il y a eu de l'actu politique aujourd'hui ou c'était que de la FAQ backseat ? Bah non, non, tout à l'heure on a parlé de la réforme des retraites, on a parlé de plein de trucs. Non, non, mais là il est 18h. J'ai du boulot du coup pour backseat. On va se diriger vers un raid. Quel potal je vais raid ce soir ? Quel poteau, quel potal. Est-ce qu'on va chez France Info ? Il y a plein de gens qui font des OP. Genshin. Ils sont 100 chez France Info. Oh, faut les aider, France Info. Moi, j'aime bien les petites chaînes qui débutent. Allez, on va chez France Info. Vous allez avec Manon Mella qui anime une émission sur le sexisme. Hop. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream, c'était très cool. On se retrouve demain du coup pour Backseat à partir de 19h. Soyez là, soyez présents. Ouvrez-vous une bière, mettez-vous bien et j'espère que ça vous plaira cette émission de demain. Merci pour votre soutien, merci pour vos dons à Backseat. Pensez à en parler autour de vous, à vos potes, à vos parents, aux gens qui sont susceptibles de participer au financement. Merci à vous, des bisous, ciao, à demain. Salut à tous.